La province sud a tenu ce matin son débat d'orientation budgétaire. Les élus sont réunis le jour du 35e anniversaire de la création des provinces. Un fait divers particulièrement violent samedi à Rivière-Salée. La police recherche un homme qui a agressé un couple de personnes âgées. En métropole, la militante palestinienne Myriam Abou Daka, persona non grata. Le Conseil d'État a validé l'arrêté d'expulsion pris par Gérald Darmanin. En sport, nous parlerons football avec la défaite de Lens en Ligue des Champions ce matin et rugby. Fabien Galthié est enfin sorti de son silence après la Coupe du Monde. Et puis de la boxe sur le territoire avec la disparition de Patrick Colombe, sportif accompli. Il a marqué la boxe calédonienne dans les années 70-80. Les fabricants et les commerçants doivent-ils faire évoluer leurs canaux de distribution? Et si oui, comment? Du showroom en sortie d'usine à la vente tout numérique, les canaux de vente peuvent-ils se multiplier? Ce sera la question qui sera au cœur des Jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu que vous retrouverez dès la fin de ce journal. Je recevrai Jonathan Sartou, gérant de Cake Factory, Romain Chavigny, co-gérant de Shop NC et Bruno Castet, membre du bureau du syndicat des commerçants. Les Jeudis de l'économie à retrouver donc dès la fin de ce journal. Il y a 35 ans aujourd'hui, les accords de Matignon créaient les collectivités provinciales. Un anniversaire salué ce matin en ouverture de la séance plénière de la collectivité, réunie notamment pour son débat d'orientation budgétaire 2024. Mais avant de passer à cet ordre du jour, la présidente de la province sud, Sonia Baquès, a donc pris la parole pour évoquer cet anniversaire.
Il y a 35 ans, jour pour jour, étaient créées les provinces, fruit des accords de Matignon. Et cette décision majeure offrait aux Calédoniens une nouvelle collectivité de proximité. À l'heure où la Nouvelle-Calédonie se cherche, on le sait, un statut définitif, 35 ans après la création de l'Assemblée dans laquelle nous siégeons, souvenons-nous des accords de Matignon qui, dans une volonté de partage du pouvoir, ont permis de faire naître les provinces, dont la nôtre. Retenons que la création de notre institution a œuvré à maintenir ces liens entre nous tous. La province a montré que nous pouvions arriver à discuter, à innover, à s'engager tous ensemble pour l'intérêt de tous les Calédoniens, y compris ceux qui viennent des autres provinces et ceux qui ne peuvent pas participer à nos élire. Je profite de cet anniversaire pour saluer l'action des précédents présidents, Philippe Michel qui est présent aujourd'hui, mais également ceux qui ne sont pas présents, Pierre Frogier, Cynthia Lijard, Philippe Gomez, qui ont apporté leur pierre à ce fragile édifice. Évidemment, je voudrais conclure en rendant hommage à Jacques Lafleur, le premier président de notre Assemblée, à qui nous devons, avec Jean-Marie Tjibaou, le pari sur l'intelligence qui, par le partage du pouvoir, nous a apporté 35 ans de paix.
Et après ce souvenir, l'Assemblée de la province sud a ensuite adopté plusieurs délibérations, mais elle a d'abord été marquée, Gilles Ménage, par l'annonce d'un don exceptionnel.
C'est une dame de 89 ans qui est assise très discrètement dans l'hémicycle de la province sud et que la présidente Baquès remercie au nom de tous les élus. Louise Salmon, qui a toute sa vie défendu la cause des enfants en difficulté, vient de faire un don $1 million, soit plus de 71 millions de francs à la province, somme qui sera entièrement consacrée à la cause des enfants et notamment au foyer de Bouraille, un don applaudi debout par les élus de la province. Quant au débat d'orientation budgétaire 2024, il a été marqué par un constat unanime des groupes politiques. Les finances de la collectivité ont été redressées, les indicateurs de performance financière traduisent aujourd'hui les efforts entrepris par la collectivité en matière notamment de maîtrise des dépenses avec la compression de 150 postes ou encore la réorganisation des directions. Un chiffre témoigne de cet effort budgétaire. Le fonds de roulement de la collectivité, qui était de seulement 3 jours de fonctionnement en 2019, est aujourd'hui de 61 jours. Malgré cette politique rigoriste, reste bien sûr l'incertitude totale qui règne sur les recettes attendues du gouvernement, mais aussi sur l'absence de révision par le gouvernement de la clé de répartition, alors que la population de la province est passée ces dernières années de 66 à 75% de la population totale calédonienne. Dans ce contexte, difficile bien sûr de faire des prévisions précises, même si l'objectif de la collectivité reste de préserver une capacité d'investissement de 25% sur la mandature. À cela s'ajoute une autre incertitude soulevée ce matin par Philippe Michel pour Calédonie Ensemble, celle qui pèse sur les taux d'emprunt et l'inflation dans un contexte international particulièrement tendu et qui invite donc l'ensemble de la collectivité à poursuivre une gestion prudente des deniers publics. Après avoir donné acte à la présidente de ce débat, les élus ont ensuite poursuivi l'ordre du jour avec une délibération importante sur les nuisances sonores, délibération qui concerne tous les établissements ou locaux recevant du public et diffusant de la musique amplifiée. Il est question de mesures d'impact des nuisances sonores, de seuils à ne pas dépasser et surtout de renforcement des sanctions en cas de non-respect de la réglementation. Nous en sommes là des débats. Les élus doivent ensuite, dans la suite de la séance, également adopter le schéma provincial de prévention et de gestion des déchets le tout pour la période 2023-2027. En direct de l'hôtel de la province sud, Gilles Ménage, Radio Rythme Bleu.
Le préfet Rémi Bastille poursuit les discussions sur l'avenir institutionnel en compagnie des représentants des groupes politiques. Après des rencontres bilatérales lundi, il a présidé deux réunions plénières mardi et mercredi. Une troisième séance est prévue cet après-midi pour continuer à travailler sur les contre-propositions au document martyr en compagnie des loyalistes du rassemblement de Calédonie Ensemble et de l'UNI. C'est notamment l'organisation institutionnelle et la représentativité des provinces ce qui doit être à l'ordre du jour des discussions. Et puis l'actualité politique va être dense ce week-end dans le camp indépendantiste avec les congrès des trois composantes du FLNKS. L'Union calédonienne réunit son 54e congrès à l'île des Pins à partir d'aujourd'hui et pour 3 jours. La cérémonie d'ouverture et le discours du président Daniel Goa sont prévus à partir de 13h. C'est dimanche qu'aura lieu le renouvellement du bureau et du président de l'UC. Le Palikat, de son côté, a choisi l'IFU pour tenir son 48e congrès qui se déroulera à partir de demain et jusqu'à dimanche avec pour thème l'ultime trajectoire. L'UPM enfin réunira son 40e congrès samedi et dimanche à la tribu Dounia Ayaté sous le thème de « Marchons ensemble vers notre pleine souveraineté ».
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de notre rendez-vous SMS avec d'abord la réponse à la question d'hier et 68% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent qu'après son congrès, qui se réunit donc à partir d'aujourd'hui à l'île des Pins, l'Union calédonienne va décider de revenir à la table des discussions. Ils sont 32% à penser à l'inverse que ce ne sera pas le cas. Notre question du jour, les associations de défense des exclus ont-elles raison selon vous d'inviter leurs adhérents à s'inscrire sur les listes électorales sans attendre la révision constitutionnelle qui doit dégeler le corps électoral. Si vous pensez qu'elles ont raison, vous tapez 1. Si vous pensez que non, vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. Le député Nicolas Metzdorf suggère que l'antenne de la délégation de l'Union européenne soit délocalisée vers Nouméa, alors qu'elle est actuellement située à Suva, au Fidji. Il a écrit en ce sens au président de la République pour proposer ce qu'il appelle une évolution stratégique majeure dans notre région du Pacifique. Cette proposition, explique-t-il, vise non seulement à valoriser le rôle de nos territoires ultramarins, mais aussi à optimiser la politique de coopération de l'Union européenne dans le Pacifique. Dans sa réponse au directeur de cabinet du président de la République indique que le président Macron a exprimé sa sensibilité à la démarche. Le dossier a été transmis pour action et suivi à la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Venons-en aux faits divers avec cet homme qui est activement recherché pour un vol particulièrement violent, Morgane Boucher. Il a eu lieu samedi dernier à Rivière-Salée au domicile d'un couple de personnes âgées.
Vers 20h30, l'individu cagoulé, ganté et avec une arme de poing à la main s'est introduit dans leur domicile. Il a frappé au visage l'homme de 84 ans souffrant d'Alzheimer avec son arme en demandant où était entreposé l'argent. La femme âgée s'est interposée avant d'être elle aussi frappée et traînée au sol. L'agresseur a menacé de tirer une balle dans la tête de son mari et demandé de nouveau l'argent et une tablette numérique que la femme utilisait quelques minutes plus tôt. Ce qui fait penser au procureur de la République que le voleur avait observé ses victimes avant de passer à l'acte. Il a pris ensuite la fuite. L'homme a été sérieusement blessé, la femme plus légèrement, mais est dans un état de stress post-traumatique majeur. La police enquête pour identifier et retrouver l'individu. Ces faits de nature criminelle sont punis de la peine de 20 ans de réclusion. Il est demandé aux personnes susceptibles d'apporter des éléments pouvant intéresser cette enquête de contacter le commissariat de police de Nouméa.
À 11h39, on va marquer une première pause dans ce journal et on se retrouve pour évoquer le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Et si vous partiez en vacances en famille sur la Gold Coast? Jusqu'au 30 novembre, rendez-vous dans votre station mobile pour tenter de gagner un voyage pour 4 personnes avec vol, hébergement premium et 3 jours d'accès au parc d'attractions de la Gold Coast. Alors, ça vous dit? N'attendez pas, tentez votre chance dans les stations mobiles participantes. Jeux gratuits sans obligation d'achat. Règlement déposé chez Maître Citrita. Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Born Again, votre constructeur de villas de qualité au juste prix avec des délais de livraison garantis.
Villa Born Again.
Villa Born Again, la construction sereine. Info sur bornagain.nc.
Vous souhaitez acquérir un véhicule respectueux de l'environnement et économique? C'est le moment de passer à l'électrique. Profitez dès maintenant de la prime véhicule électrique, soit moins 600 000 francs sur l'achat de votre voiture 100% électrique. Oui, vous avez bien entendu, moins 600 000 francs. Passez rapidement en concession Autovolt, 4 rue Fleming à Ducos. Autovolt, représentant des marques MG et BYD. Offre soumise à conditions en partenariat avec l'ACE et le gouvernement de Nouvelle-Calédonie.
Radio Rythme Bleu, la première radio de Nouvelle-Calédonie.
La suite d'Infomag, Jean-François Baudin.
La station N accueille depuis ce matin la première édition du rendez-vous du STANC. Cette rencontre fait suite évidemment à l'adoption du schéma pour la transition énergétique de Nouvelle-Calédonie par le Congrès il y a quelques semaines. Transition de la métallurgie, c'était le thème de la thématique de la matinée. Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de la transition énergétique et président de l'ACE, l'Agence calédonienne de l'énergie.
On voit qu'on a des entreprises qui sont fortement engagées aujourd'hui dans la décarbonation de leur mix, pas que sur la partie énergétique, mais aussi sur l'ensemble du process. C'était pas le cas en 2019. J'ai l'habitude de dire qu'on a une double révolution énergétique en Calédonie, une inversion du mix en énergie renouvelable, mais aussi des industriels et des collectivités qui travaillent ensemble pour donner un avenir au nickel calédonien. Et je crois que c'est une vraie bonne chose.
Cet après-midi, le public composé d'institutions, d'associations et d'entreprises abordera cette fois-ci le thème de la mobilité décarbonée. Cérémonie de remise des prix Collège Nouvelle Génération, hier au centre administratif de la province Sud. Depuis 2 ans, l'institution valorise les établissements qui portent des projets favorisant la réussite scolaire en leur attribuant des subventions. Et pour la 2e édition, 13 projets ont été retenus. Écoutez Marie-Jo Barbier-Pontoni, présidente de la commission de l'enseignement à la province Sud.
Dans la même continuité justement d'une pédagogie innovante et différenciée, dans une dynamique de collège inclusif, puisque notre collège accueille 2 unités localisées pour l'inclusion scolaire, donc qui scolarisent des enfants avec des taux de handicap. Le premier projet, c'est d'offrir sur les 2 salles du LIS du mobilier totalement flexible et de réels outils de recherche et des outils de découverte, comme par exemple des casques virtuels pour faire des musées ou des choses comme ça. Et c'est une salle de recherche qui sera dédiée à l'ensemble des élèves de l'établissement. Et pour le foyer, c'est justement que les élèves du LIS et même des profils particuliers puissent se sentir à leur place au foyer avec du mobilier adapté, des couleurs, des endroits où on peut vraiment s'isoler, être calme. Donc voilà.
Voilà, ce n'est pas Marie-Jo Barbier-Pontoni que l'on va entendre dans un instant. C'était Pauline Thor, qui est coordinatrice de la classe Ulysse du Collège des Portes de Fer, qui a été retenue pour un projet sur ses unités localisées pour l'inclusion scolaire qu'elle vient de nous décrire. Marie-Jo Barbier-Pontoni, présidente de la commission de l'enseignement à la province Sud, revient donc sur cette opération.
Dans le jury, nous avons eu 25 dossiers, 13 dossiers ont été retenus, dont des collèges qui ont présenté 2 projets. Donc nous sommes très fiers des dossiers qui ont été présentés. De très beaux projets pour une somme de 140 millions et tout ça dans l'intérêt des enfants.
Et pour la plupart, alors c'est des rénovations, des extensions du mobilier?
Oui, voilà, c'est une transformation de classe, d'un local, c'est une extension ou simplement un réaménagement.
Ça va jusqu'à des pergolas?
Ce projet de pergola au collège du Ban a énormément séduit le jury. Un, parce qu'il était présenté par les élèves, et 2, parce qu'il y a eu un partenariat entre le collège du Ban et le lycée Pietro Attiti, donc la section menuiserie, pour justement aménager la cour du collège.
Voilà donc pour cette opération. On notera notamment parmi les établissements lauréats des projets d'extension ou de rénovation de CDI, de foyers, de salles d'études avec des espaces modulaires, des Media Labs, des mini-cinémas ou encore du mobilier moderne. Restons à l'école. Nous sommes à 260 jours de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques en métropole et ce matin, les élèves de l'école Antoinette Charbonneau ont reçu leur kit Paris 2024, Morgane.
L'ANS, l'Agence Nationale du Sport, a lancé l'an dernier le dispositif 30 minutes d'activité sportive quotidienne. Dans ce cadre, elle a offert plus de 200 kits pour les écoles de Nouvelle-Calédonie. Et ce matin, c'est le haut-commissaire Louis Lefranc qui a remis ce kit aux élèves. L'occasion également de rappeler les missions de l'ANS sur le territoire.
L'Agence nationale du sport finance beaucoup, beaucoup de choses ici dans le domaine du sport. Je parle de la Nouvelle-Calédonie, mais au niveau du territoire national. 1 milliard de francs pacifiques par an, dont 300 en fonctionnement. Et 700 en investissement, des équipements sportifs, des infrastructures sportives, voilà, qui concernent un certain nombre de communes, et puis du fonctionnement, c'est-à-dire permettre aux ligues sportives, à toutes les structures associatives qui font vivre le sport en Nouvelle-Calédonie, de fonctionner, c'est-à-dire pouvoir payer les encadrants, ceux qui ont la qualification d'encadrer des jeunes. Et donc l'Agence nationale du sport y contribue très largement.
Ce kit comprend du petit matériel sportif pour permettre la pratique d'une activité physique à l'école. C'est d'ailleurs une question de santé publique, selon Alexandre Dabin, le directeur de l'école, Antoinette Charbonneau.
C'est vraiment essentiel parce qu'on peut se rendre compte actuellement les problèmes que rencontre la santé en Nouvelle-Calédonie, mais donc la pratique sportive tous les jours, en dehors du temps de classe aussi, pendant les récréations, pendant le périscolaire, c'est très important et ça permet aux enfants de gagner certaines valeurs. les valeurs que sont le respect, l'excellence et l'amitié. Les enseignants vont faire le nécessaire pour que tout le matériel revienne et puisse être distribué pour l'ensemble des élèves.
Ce kit a été remis en présence de la vice-présidente du gouvernement Isabelle Chamorro, mais aussi de l'ancienne championne olympique de cyclisme sur piste Félicia Ballanger.
L'école toujours avec la deuxième édition de la journée interculturelle dans le cadre de Label École Océanienne. L'opération s'est déroulée ce matin au Centre culturel du Mont d'Or. Dans le cadre de sa politique éducative 2020-2024, la province Sud a en effet acté le développement et la valorisation des cultures présentes sur son territoire et dans les écoles, explique Marie-Jo Barbier, la présidente de la commission enseignement.
Le label École Océanienne est un dispositif créé pour les écoles pour donner un cadre à l'enseignement avec une des priorités, le vivre ensemble. Le travail de la journée, en fait, le travail des élèves et des équipes éducatives, c'est de montrer aux parents, aux familles, aux élus présents, ce qu'est le vivre ensemble dans les écoles. Le vivre ensemble, fêté aujourd'hui, c'est le ciment au sein de l'école. Nous avons souhaité faire cette journée au Mont d'Or, puisqu'on a beaucoup plus d'écoles qui ont rejoint ce dispositif, être au carrefour des communes de l'agglomération. On compte bien que ce dispositif s'étende à d'autres écoles.
Et plus de 1200 enfants venus des différentes écoles et communes ont pu présenter le résultat de leur projet autour de la multiculturalité calédonienne.
Je représente Maurice Faure-Robert, la danse avec les LK.
On a dansé, on a pris des pas, on a pris la langue créole, langue Tahiti, Wallis, Marais.
On a dansé, on a chanté et puis on a fait ça pour découvrir les pays.
Johnny Ginson. On a travaillé sur des cultures différentes de Tahiti. On a travaillé sur la Kaskanak, le Faré, le Falé et le Buré.
Marie Yavé. On a fait les chambrolles, du bambou gravé.
Des serpents avec des fils de fer poilu, des tortues, plein de choses quoi.
Voilà des propos recueillis par Axel de France. En bref, la base navale à la Pointe-Chalex accueille aujourd'hui une classe de 3e du collège de Ploum. Ses élèves participent au rallye Cap Citoyen. Un challenge intercollège qui a pour but d'éveiller et sensibiliser ces jeunes à la citoyenneté, aux missions de la défense et aux enjeux maritimes. Ils participent tout au long de la journée à des ateliers et des visites pour découvrir la marine. À la fin de la journée, ils répondront à un quiz pour tenter de remporter le trophée 2023 qui sera remis au mois de décembre. Près de 40 classes de 3e ont participé cette année à ce rallye Cap Citoyen, ce qui représente plus de 700 élèves. Aujourd'hui, le collège de Ploum a eu droit à un rallye spécial armistice du 11 novembre 1918 à l'approche de la date anniversaire. Enfin, c'est la semaine cinéaste européen qui débute aujourd'hui. L'association Cinéma d'ici et d'ailleurs propose jusqu'au samedi 18 novembre de découvrir 8 réalisateurs au travers d'une sélection de films. Ce soir, le rendez-vous est donné au drive-in du Pont des Français avec le célèbre Les 400 coups de François Truffaut et les débuts à l'écran de Jean-Pierre Léaud. La séance est à 19h30. Les 6 autres films de cinéastes européens seront projetés au Ciné City. 11h48, une pause dans un instant l'actualité en métropole avec notamment le Conseil d'État qui valide l'expulsion de Mariam Aboudaka. On en parle dans un instant.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Les experts de Groupama GAN vous conseillent. Jusqu'au 13 novembre, souscrivez à notre assurance auto, habitation, santé, prévoyance ou accident de la vie et bénéficiez de 3 mois offerts. Souscrivez en 2023, payez en 2024. Rendez-vous vite en agence ou sur groupama-gan.nc. Groupama, la vraie vie s'assure ici.
Tous les jeudis avec Télé NC. On vous propose vos disposés, toutes les infos, l'actualité, mon horoscope et ma BD.
Mon horoscope, ma BD, mes programmes télé, TéléNC, c'est mon préféré.
Avant-dernière pièce de la saison 2023 au Théâtre de Lille. Un moment en total décalage, la salle est morte de rire. Denise Jardinière vous invite chez elle. Déjà 10 000 spectateurs l'ont vu. Alors rendez-vous les vendredis 10 novembre à 20h, samedi 11 et dimanche 12 novembre à 18h.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
En métropole, la marche citoyenne contre l'antisémitisme annoncée par le président du Sénat et la présidente de l'Assemblée nationale prend une tournure très politique. Depuis que le Rassemblement national a fait part de son intention d'y participer, la France insoumise n'ira pas. Les autres formations politiques veulent bien défiler, mais loin des élus Rassemblement National. Bref, il devrait régner une certaine tension politique pour cette mobilisation. De son côté, le Conseil d'État a validé l'expulsion de Mariam Abou Daka. Il confirme ainsi l'arrêté pris par Gérald Darmanin qui indique que la présence de cette militante du Front populaire de libération de la Palestine sur le sol français risque de porter une atteinte grave à l'ordre public. Que reproche-t-on exactement à Mariam Abou Daka? Les explications de Jean-Baptiste Marty pour Europe 1.
Eh bien, d'appartenir et de soutenir une organisation considérée comme terroriste par la France et même par l'Union européenne. Pour rappel, c'est ce mouvement, le Front populaire de libération de la Palestine, qui a été à l'origine de nombreux attentats contre des civils israéliens. Par exemple, la prise d'otages pendant les Jeux olympiques de Munich ou encore l'attentat contre la synagogue de la rue Copernic en France en 1980. Alors même si le Conseil d'État reconnaît que Mariam Abou Daka n'a causé aucun trouble depuis son arrivée sur le sol français en septembre dernier, son soutien apporté au peuple palestinien, mais surtout au Hamas, lors de ses conférences, peut attiser la haine entre les communautés. Plusieurs interventions que la militante devait tenir avaient été annulées, comme à Metz ou encore à Martigues. Elle est actuellement assignée à résidence à Marseille. Elle doit quitter le sol français dans les prochains jours.
Toujours en métropole, le département du Pas-de-Calais n'en a pas fini avec les inondations. Il reste en vigilance orange, crue, mais pourrait de nouveau passer au rouge. Alors qu'il continue à pleuvoir et que la décrue ne devrait pas commencer avant la fin de la semaine, certains habitants ont pu regagner les maisons qu'ils avaient quittées il y a deux jours. Écoutez ces témoignages recueillis à Saint-Étienne-des-Monts.
C'est plus habitable, il n'y a plus rien, on a tout perdu, on a tout racheté, on avait tout refait à neuf, il n'y a plus rien. Plus de souvenirs, plus de maisons, plus de meubles, plus rien. On accuse le coup, c'est dur et surtout c'est long.
Bon, là, il nous reste 50 cm dans la cave, mais bon, c'est monté à 1m40, donc c'est impressionnant. Ça fait deux nuits qu'on ne dort pas ici, on ne pouvait pas accéder à la maison, donc on se débrouille. On nettoie peut-être pour rien, mais bon, on verra bien.
Dans le Pas-de-Calais, il est tombé ces derniers 30 jours, l'équivalent de 6 mois de précipitations. Le troisième jour d'audience du procès d'Éric Dupond-Moretti devant la Haute Cour de justice de la République. Accusé de prise illégale d'intérêt dans l'exercice de ses fonctions, le ministre de la Justice s'est retrouvé face aux magistrats avec lesquels il avait eu maille à partir lorsqu'il était avocat. Compte rendu d'audience de Jacques Serret pour Europe 1.
Assis dans son fauteuil, le garde des Sceaux encaisse les coups. Les témoignages s'enchaînent et se ressemblent. Patrice Amar, ex-numéro 2 du parquet national financier, charge le ministre. Éric Dupond-Moretti, ce n'est pas un point de contact, c'est une pesanteur institutionnelle. C'est le patron, lance-t-il à la barre pour dénoncer celui qui, avocat, avait porté plainte contre lui et qui, une fois ministre, avait lancé une enquête administrative à son adresse. Sa collègue du PNF, Ulrika Weiss, n'est pas plus tendre. Dans ce dossier, le ministre a vengé l'avocat, résume-t-elle. Puis vient le tour d'Eliane Oulette. L'ancienne patronne du parquet national financier s'approche du micro. Plus de trois ans après, il ne reste rien des accusations graves lancées par Éric Dupond-Moretti, explique cette magistrate aujourd'hui à la retraite. Le ministre, les bras croisés, lève les yeux au ciel. Son avocate, maître Jacqueline Lafont, tente d'interroger le témoin. Mais à chaque fois ou presque, c'est une fin de non-recevoir. Je n'ai rien à ajouter, vous ferez votre plaidoirie plus tard, réplique l'ancienne juge à l'avocate. La tension monte peu à peu d'un cran. Le ministre s'agace d'entendre les commentaires peu amènes des témoins de la matinée qui sont assis au premier rang dans le public. Le président de la Cour de justice de la République suspend l'audience quelques minutes, le temps que les esprits s'apaisent.
La France accueille le premier sommet international dédié aux pôles et aux glaciers. Le One Planet Polar Summit réunit des scientifiques du monde entier pour parler entre autres évidemment des effets du réchauffement climatique avec des enjeux très importants, souligne Sarah El-Haïry, la secrétaire d'État chargée de la biodiversité.
La disparition des glaciers représente un immense défi. Il y a des centaines aujourd'hui de scientifiques qui montrent que l'effondrement de la cryosphère s'accélère et que la fonte des glaciers met en danger des centaines de millions de vies. Il y a des risques sur la montée du niveau de la mer et donc des risques de submersion et de voir plus d'un milliard d'habitants sur notre planète devoir se déplacer. Il y a un risque majeur de libération de CO2 mais aussi de nouvelles menaces pandémiques. La cryosphère, c'est aussi une richesse absolument indispensable aux équilibres de la planète et on ne peut pas assister à son effondrement en silence. Il y a de l'espoir. D'ici 2100, on peut réduire jusqu'à 70% de la fonte si on respecte les accords de Paris.
Sarah El-Haïry, secrétaire d'État chargée de la biodiversité, à l'occasion du sommet international dédié aux pôles et aux glaciers qui va s'ouvrir donc en métropole. 11h55, dans un instant, ce sera la page sport.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Baudin.
À À la recherche d'une citadine neuve et abordable? Jusqu'au 3 décembre, profitez d'une offre exceptionnelle sur la Peugeot 208 Active Pack Blanche, boîte manuelle, garantie 5 ans, à seulement 25 000 francs par mois TTC. Oui, 25 000 francs par mois TTC. Alors n'attendez plus. Rendez-vous dès maintenant chez votre concessionnaire Peugeot, complexe Ménard Automobile. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez votre capacité de remboursement avant de vous engager. Voir conditions en concession sur Peugeot.nc.
Peugeot.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Samedi 11 novembre, le parc provincial des Grandes Fougères vous ouvre ses portes pour vous offrir une journée nature et de découverte. Dès 7h30, l'équipe du parc et ses partenaires vous attendent pour vous faire profiter d'une multitude d'activités, toutes gratuites. De la randonnée guidée à la balade à cheval, de l'atelier d'initiation à la poterie ou de détente, en passant par un spectacle de danse tahitienne, venez découvrir le terroir calédonien dans un cadre naturel, en famille ou entre amis. Et dès la tombée de la nuit, le parc propose la projection d'un film tout public avec la possibilité de camper sur place, sur inscription uniquement. Pour vous inscrire aux différentes activités proposées lors de cette journée portes ouvertes, au parc provincial des Grandes Fougères, contactez le 46 99 50.
La Province Sud, agir pour l'avenir.
Imprimer à prix léger avec Bureau Vallée. En ce moment, le pack de cartouches d'encre HP 305 noir plus couleur est en promotion à 2590 francs.
Bureau Vallée, on met la barre très haut et les prix très bas.
Offre valable jusqu'au 18 novembre 2023.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
L'actualité sportive.
Avec Décathlon, suivez toute l'actualité sportive du jour. Toutes les infos et tous les résultats locaux, nationaux et internationaux.
Décathlon, le sport pour tous, tout pour le sport.
Et on va commencer, Frédéric Joncheret, avec le football. Lens s'est incliné chez le PSV Eindhoven ce matin lors de la quatrième journée de Ligue des Champions.
Les sang et or ont été battus 1-0 par les Néerlandais. La faute à un but de De Jong dès la 12e minute. Les Nordistes ont été maladroits sous la pluie battante batave. Ils ont commis trop d'erreurs techniques pour espérer mieux, malgré une fin de match enlevée avec un tir sur le poteau de Guy Lavoggi, qui sera expulsé 4 minutes plus tard pour un excès d'engagement. La réaction de l'attaquant Florian Sotoka.
On savait qu'on avait une poule difficile et qu'on allait se battre jusqu'au bout. Voilà, on est fiers d'avoir 5 points, on aurait aimé en avoir un petit peu plus ce soir, mais voilà, ça fait partie du jeu. On est tombé sur une belle équipe aussi, mais voilà, on a des regrets parce que je trouve qu'on aurait pu ramener au moins le point du match nul avec ce poteau à la fin. Il y a un petit cafouillage et ensuite il y a le corner avec Kev qui met la tête et se sauver sur la ligne. Donc voilà, ça se joue à rien, ça se joue à des petits détails, on les savait et voilà, c'est comme ça.
Lens est donc à égalité de points avec le PSV, 5, mais ce dernier passe devant grâce à sa victoire du jour. Les Lensois sont 3e et en danger avant leur déplacement dans 3 semaines à Arsenal. Les Gunners sont eux en tête avec 9 points après leur victoire à domicile face au FC Séville 2-0. L'avenir européen des Lensois a de grandes chances de se jouer lors de la 6e et dernière journée, le 13 décembre, en recevant les Espagnols.
Et dans les autres groupes, plusieurs équipes sont déjà qualifiées pour les 8e de finale.
Le Real Madrid en fait partie après sa victoire face à Braga 3-0, c'est son 4e succès en 4 matchs. Dans ce groupe, ce n'est pas encore fait pour Naples, qui a été tenu en échec par l'Union Berlin, 1 but partout. Autre qualifié, la Real, la Sociedad et l'Inter Milan dans le groupe D. Les Espagnols ont battu Benfica 3-1 et les Italiens ont gagné à Salzbourg 1-0. Avec 7 points d'avance, ils sont assurés de jouer la phase finale. Dans le groupe A, qualification du Bayern Munich, qui l'a emporté face à Galatasaray 2-1 grâce à un doublé de Kane. C'est le 4e succès, là aussi en 4 matchs des Bavarois. En revanche, rien n'est fait pour la 2e place après la victoire de Copenhague sur Manchester United 4-3. Les 3 autres équipes se tiennent en 1 point.
Et demain, on suivra la 4e journée de Ligue Europa. Le leader de la poule B, Marseille, sera en déplacement chez l'AEK Athènes. Rennes, leader du groupe F, accueillera le Panathinaikos pendant que Toulouse, 3e de son groupe, recevra Liverpool. Enfin, en Ligue Europa Conférence. Lille, en tête du groupe A, se déplacera, c'est le Slovan Bratislava. Un mot de tennis, la France a perdu face à l'Italie son premier match de la Billie Jean King Cup, la Coupe Davis au féminin.
Alizé Cornet et Caroline Garcia se sont inclinés en simple. La victoire en double de Kristina Mladenovic et Caroline Garcia n'a rien changé. Prochain rendez-vous pour les Bleus dans la nuit de vendredi à samedi contre l'Allemagne, mais elles n'ont déjà plus leur destin en main, car il faut terminer en tête de son groupe pour se qualifier pour les demi-finales.
L'actualité du rugby est revoilà Fabien Galthié, l'entraîneur du 15 de France, avait volontairement disparu entre guillemets après la défaite de son équipe en quart de finale de la Coupe du Monde. Un temps nécessaire pour digérer une énorme déception. Il l'a évoqué lors d'un déplacement que la fédération avait organisé pour lui avec les jeunes du PUC. Cédric Chasseur était sur place pour Europe 1.
Fabien Galthié a reçu un accueil très chaleureux. Tout sourire, ses célèbres lunettes noires vissées sur le nez, le sélectionneur a joué pendant près d'une heure avec les jeunes du club. Il a aussi passé un peu de temps avec les entraîneurs du PUC, comme le raconte Elio Vellani, directeur sportif du club.
On a eu un temps avec lui de vidéo là, pendant une demi-heure à nous présenter des rapports de match du quart de finale. Et en fait, j'ai pas tout compris ce qu'il a raconté, pour être transparent. En revanche, c'était un match accroché et c'est ce qui ressort dans les rapports qu'il nous présente.
Un quart de finale que Fabien Galthié a revu 10 fois depuis la mi-octobre. Une défaite qu'il a longuement évoquée avec la presse. Une rencontre d'une trentaine de minutes durant laquelle il s'est confié notamment sur la douleur causée par cette élimination. C'est comme un deuil pour le sélectionneur du 15 de France.
Cédric. La déception est énorme. Donc dans un premier temps, je crois qu'il y a un deuil à respecter pour moi, mais aussi pour le staff, mais aussi pour les joueurs. Et je dirais que le mot qui revient et que je partage avec vous, c'est « il faut l'accepter ». Il faut accepter la défaite, il faut accepter le fait de ne pas avoir atteint l'objectif. Et ensuite, il faut dépasser cet état-là. Je pense que la blessure, ça fera une cicatrice et que la cicatrice, on l'aura à vie.
Et à la question « regrette-t-il ses choix lors de ce quart de finale ?», Fabien Galthié est resté fidèle à lui-même. « Absolument pas », a répondu le technicien. « Si c'était à refaire, je referais la même stratégie ».
Et pour terminer ce journal, parlons de boxe en Calédonie. On a en effet appris le décès du boxeur Patrick Colombe des suites d'une longue maladie. Il s'est éteint en métropole hier. Patrick Colombe avait marqué son sport en Calédonie dans les années 70 et 80. Écoutez Gérard Coville, spécialiste de la boxe calédonienne, qui se souvient de lui comme d'un boxeur élégant.
C'était un boxeur régional, mais il a dû faire 25 ou 30 combats. Et il a une majorité de victoires. Il était élégant, il était bien sur un ring. Il n'avait pas beaucoup de frappes, hein, donc il avait réussi à obtenir une bonne technique et il se débrouillait plutôt bien avec. Hein. Il a boxé plusieurs années. D'ailleurs, je me souviens qu'il avait gagné un tournoi en Nouvelle-Zélande. Il avait gagné une médaille. Il était dans les meilleurs de l'équipe à l'époque. Quoi. C'était un bon petit boxeur. Hein. Moi, je me souviens parce que j'étais entraîneur à l'époque et il m'a battu plusieurs de mes élèves.
Gérard Coville, auteur du mémorial de la boxe calédonienne, sportif accompli. Patrick Colombe avait également pratiqué le jet ski et la moto. Il est midi 2, c'est la fin de ce journal.